Donc la liberté d'expression, la liberté de rassemblement est énormément diminuée depuis les débuts de 2015. Nous avons documenté des dizaines d'activistes et leaders de l'opposition et d'autres qui ont été arrêtés juste pour avoir participé dans des réunions pacifiques ou des manifestations pacifiques ou parce qu'ils ont parlé publiquement contre les glissements ou le prolongement du mandat du président Kabila. Plusieurs d'entre eux ont été détenus pour des mois par les services de renseignement, sans accès à leur famille, aux avocats, sans aucune charge contre eux. D'autres étaient traduits en justice aux bases des charges complètement motivées pour des raisons politiques. Nous avons aussi vu des mesures très strictes pour essayer de débloquer la liberté de manifester, des interdictions dans plusieurs villes, des manifestations pacifiques et donc systématiquement l'utilisation de le gaz lacrymogène ou la force létale contre des manifestants. En janvier 2015, déjà, il y avait des manifestations à travers le pays, au moins 40 personnes tuées par les forces de sécurité. Et juste dernièrement, en septembre de cette année, il y avait aussi des manifestations, surtout à Kinshasa, contre le fait que la CENI, la commission électorale, n'a pas convoqué les élections 3 mois avant la fin du mandat du président Kabila. Et encore une fois, les forces de sécurité ont répondu avec énormément de force. Nous avons documenté au moins 66 personnes qui ont été tuées par les forces de sécurité. Quelques-uns ont été brûlés par les gardes républicaines quand les gardes républicaines ont attaqué des sièges de l'opposition. Plusieurs journalistes et activistes des droits de l'homme ont été arrêtés aussi à ce moment-là. Nous avons aussi vu des attaques contre la presse, la média et aux journalistes au Congo.
Est-ce que vous avez le sentiment que Kinshasa veut faire taire les voix dissidentes?
Oui, donc ce que nous avons vu depuis les dernières 2 ans, c'est des efforts de la part du gouvernement de faire taire aux voix dissidentes au pays. Et c'est un développement assez triste et assez inquiétant. On a vu donc au Congo depuis longtemps, donc malgré les violations des droits humains qui existaient, malgré la répression à un certain niveau qui existait, l'opposition existe au Congo. Il y a une forte société civile, il y a des journalistes, il y a beaucoup de médias. Mais ce que nous voyons maintenant est que cet espace est en train de se réduire énormément et ça nous inquiète beaucoup. Nous avons tellement peur sur ce qui va arriver dans les semaines à venir. Jusque-là, donc, il n'y a aucun accord politique, il n'y a aucune clarté sur si ou quand le président Kabila va quitter le pouvoir. Et il y a un fort risque qu'il y aura beaucoup de manifestations et que les forces de sécurité vont répondre avec une force excessive et illégale pour tirer ou tuer des manifestants. Aussi, on ne sait pas exactement comment les forces de sécurité vont répondre après le 19. Il y a une possibilité qu'on peut voir des divisions au sein des forces de sécurité. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des dizaines de groupes armés qui sont encore à l'est du pays et qu'on continue à commettre de graves attaques, des violations des droits humains contre la population. Et c'est possible que ces groupes armés pourraient être manipulés pour des fins politiques après le 19 décembre. Aussi, donc, la RDC est un pays vaste avec 9 pays voisins autour de la RDC. Et il y a une possibilité que la crise au Congo pourrait avoir des impacts à travers la région. Donc, nous croyons que la meilleure solution pour éviter toute cette possibilité de répression violente, chaos, instabilité, serait pour le président Kabila de dire clairement, publiquement à la population qu'il va quitter le pouvoir à la fin de son mandat. Il ne va pas essayer de changer la constitution pour donc postuler pour un autre mandat.
Lorsque des journalistes ou des chercheurs, des associations de défense des droits de l'homme, voire des pays critiquent les autorités autorités de Kinshasa, les autorités congolaises parlent d'ingérence et disent que c'est fini le temps des colonies.
Nous, de Human Rights Watch, on fait notre travail pour documenter les violations des droits humains, pour appeler qu'il y a la justice pour les auteurs et qu'il y a donc des mesures pour mettre fin à ces violations des droits humains. On travaille étroitement avec des activistes congolaises, les ONG des droits de l'homme congolaises, et nous essayons de faire ce que nous pouvons pour montrer au monde extérieur quand il y a ces violations des droits humains, donc d'être la voix pour les victimes, pour que leur souffrance est connue et pour encourager tous les acteurs qui peuvent faire quelque chose à agir pour essayer de mettre fin à ces violations. Donc nous ne sommes pas des gens qui viennent de l'extérieur comme ingérence, mais c'est pour soutenir la population congolaise et le respect des droits humains au Congo.
Vous avez dit tout à l'heure, je parle français comme une Congolaise. Est-ce que vous espérez revoir bientôt le Congo?
Oui, très. Donc le Congo me manque beaucoup. Ça fait 9 ans que j'habitais au Congo et j'ai travaillé pour Human Rights Watch. En janvier 2008, basé d'abord à Goma et puis à Kinshasa. Et j'étais très triste et très déçue par les mesures que les autorités ont prises en août pour m'efforcer de quitter le pays. Mais j'espère vivement que je pourrai bientôt rentrer. La chose que j'ai aimé le plus de mon travail, tout le temps que j'ai passé au Congo, c'était les Congolais eux-mêmes. Et j'étais toujours très impressionnée par la manière dont les Congolais, malgré toutes les souffrances et tous les problèmes, donc surtout à l'est du pays avec une guerre après l'autre, tous les groupes armés, les Congolais ont une persévérance très impressionnante et toujours en bonne humeur malgré tout. Et je vois aujourd'hui beaucoup d'espoir avec surtout les jeunes Congolais, les jeunes activistes et les gens qui veulent que leur pays change et qu'il y aura un meilleur Congo pour les générations de l'avenir.